Bonjour tout le monde. Bonjour aux enfants aussi. Vous allez voir, David et Goliath, ça va être super. Je salue aussi Benjamin Kratz. Tu pourras peut-être juste te lever, voilà. C'est notre comédien. Et il y a son acolyte Cédric Comte. C'est les deux qui font partie du groupe Ciel à vendre. Je vais poser la question à la fin. Pourquoi ils vendent le ciel et pourquoi nous, on le donne gratuitement. Je vous explique ce qui va se passer ce matin. Donc, on aura à peu près 40-45 minutes de lecture biblique, donc tiré de la Bible, de l'Ancien Testament. Il y a deux testaments, le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est l'histoire de David, mais il n'y aura que des extraits. C'est surtout des textes bibliques et il y aura quelques phrases pour relier les différentes parties, donc quelques phrases que moi j'ai mis dedans, mais la plus grande partie c'est le texte biblique. Donc il y aura 45 minutes de lecture publique et mise en scène aussi, et puis après il y a 10 minutes d'entracte, il y aura un apéro qui va commencer. Et pour les gens qui sont des fans du culte et qui voudraient peut-être voir ce que c'est un moment de culte, un culte très simple, il y aura surtout des chants avec batterie, guitare et de la prière, peut-être une vingtaine de minutes à peu près. Et après, vous pouvez aussi avoir votre apéro. Donc. Et il y aura un chapeau à la sortie pour la première partie et il y aura aussi une collecte dans la deuxième partie. Ce n'est pas pour récolter de plus de sous, mais vous pouvez mettre dans le chapeau et mettre dans la partie du culte pour faire la collecte, mais ce n'est pas nécessaire, donc vous êtes libre. C'est une entrée libre et une sortie libre, voilà. Alors, je donne la musique, et puis Benjamin va monter sur scène. Bonne écoute.
L'histoire du roi David, racontée dans l'Ancien Testament de la Bible, est très importante pour le christianisme. Jésus-Christ se positionne dans la lignée de ce roi, et on l'appellera entre autres fils de David. Je ne vous lirai que des extraits de la première partie de la vie de ce roi, de son adolescence jusqu'à son accession à la royauté. Lorsqu'il régnera aux environs du Xe siècle avant Jésus-Christ, sur toutes les tribus d'Israël. Là où tout a commencé pour l'adolescent David. Le Seigneur dit à Samuel, « Est-ce que tu vas pleurer Saül encore longtemps ? C'est moi qui l'ai rejeté et il ne sera plus roi d'Israël. Prends de l'huile et va à Bethléem. Je t'envoie là-bas, chez Jessé. En effet, j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. Samuel demande, comment est-ce que je peux faire cela? Si je vais à Bethléem, Saül va l'apprendre et il va me tuer. Le Seigneur lui répond, prends avec toi un veau. Tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Invite Jessé à la cérémonie. Je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j'ai choisi. Et tu verseras de l'huile sur lui pour le faire roi. Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent « Est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle ?» Samuel répond « Oui. Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel dit aussi à Jessé et à ses fils « Rendez-vous pur, je vous invite au sacrifice. » Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab et pense « C'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit « Cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. » Ensuite, Jessé appelle Abinadab. Il le fait passer devant Samuel, mais Samuel dit « C'est pas non plus cet homme-là que le Seigneur a choisi. » Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajoute « Est-ce que tes fils sont tous là ?» Jessé répond « Non, il y a encore David, le plus jeune. Il garde les moutons. » Samuel lui dit « Envoie quelqu'un le chercher. Nous ne commencerons pas le repas du sacrifice avant son arrivée. » Aussitôt, Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, « C'est lui. Verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. » Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Le jeune David entre au service de son mentor, le roi Saül, qui deviendra plus tard son pire ennemi. L'Esprit du Seigneur a quitté Saül et un esprit mauvais, envoyé par le Seigneur, le fait souffrir. Les serviteurs de Saül lui disent « Nous le savons, Dieu t'a envoyé un esprit mauvais qui te fait souffrir. Donne un ordre, nous t'obéirons. Nous te trouverons un homme qui sait jouer de la cithare. Ainsi, quand l'esprit mauvais viendra en toi, le musicien jouera et cela te calmera. » Saül répond « Trouvez-moi un bon musicien et amenez-le. » Un des serviteurs dit « Je connais justement un fils de Jessé, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. » Saül envoie des messagers à Jessé pour lui dire « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Alors, Jessé prend un âne. Il charge dessus du pain, une outre de vin et un cabri. Et il envoie son fils David porter ses cadeaux à Saül. David arrive chez Saül et il se met à son service. Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Puis Saül envoie dire à Jessé, « Je veux que David reste à mon service parce qu'il me plaît. » À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calme, il se sent mieux, et l'esprit mauvais le quitte. C'est le combat contre le géant Goliath qui fait devenir David une vraie star. Pas seulement à l'époque où il a vécu, mais encore aujourd'hui. Il a laissé des traces dans l'imaginaire collectif occidental. Les Philistins réunissent leur armée pour aller faire la guerre. Ils se rassemblent dans la ville de Soko, en Juda, et ils installent leur camp à Ephes d'Amim, entre Soko et Azeka. Saül et l'armée d'Israël se rassemblent et s'installent dans la vallée du Térébinthe. Puis ils se mettent en ordre de combat contre les Philistins. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une autre. Une vallée les sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure au moins 3 mètres. À peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kilos. Sur sa poitrine, en travers, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de sa lance pèse plus de 7 kilos. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath s'arrête et il crie aux soldats d'Israël : Vous vous mettez en ordre de combat ? Pourquoi non ? Je suis un Philistin. Et vous ? Vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez par vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre et s'il me tue, les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à le battre et si je le tue, c'est vous qui deviendrez vos esclaves. Et il ajoute encore. Aujourd'hui, je provoque l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme. Et nous allons lutter l'un contre l'autre. Quand Saül et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. David est fils de Jessé, du clan d'Ephrata. Il habite à Bethléem, dans le pays de Juda. Jessé a 8 fils, et au temps de Saül, il est très âgé. Ses 3 fils aînés, Eliab, Abinadab et Shamma, sont partis faire la guerre avec Saül. Saül, pardon. Saül, c'est en anglais. David est le plus jeune. Il a l'habitude d'aller servir Saül quelque temps, puis de revenir garder les moutons de son père à Bethléem. Pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présente matin et soir devant l'armée d'Israël. Un jour, Jessé dit à David : Prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains, va vite au camp militaire, tu les donneras à tes frères. Prends aussi ces 10 fromages et donne-les à leur commandant. Va voir si tes frères sont en bonne santé et rapporte-moi quelque chose qui me montrera que tout va bien là-bas. Tu vas les trouver avec Saül et toute l'armée d'Israël. Ils sont dans la vallée du Térébinthe, en train de faire la guerre aux Philistins. Le jour suivant, David se lève tôt le matin. Il laisse ses moutons à un gardien. Il prend les cadeaux et il se met en route. Comme son père Jessé l'a dit, il arrive au camp d'Israël. À ce moment-là, l'armée d'Israël se prépare pour le combat. Et les soldats poussent le cri de guerre. Faites un cri de guerre. Les Israélites et les Philistins se mettent en ordre de combat. David laisse ses cadeaux auprès du gardien des bagages et il court vers les soldats. Quand il trouve ses frères, il leur demande s'ils sont en bonne santé. Au moment où il parle avec eux, le Philistin de Gath, qui s'appelle Goliath, s'avance devant son armée. Et comme d'habitude, il se met à provoquer les Israélites. David entend tout ce qu'il dit. Quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et ils reculent. Chacun dit, « Voyez, cet homme-là vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage. Et la famille de son père ne payera plus d'impôts en Israël. » David demande aux soldats qui sont près de lui, « Qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant ? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël ?» Les soldats redisent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, « Mais pourquoi est-ce que tu es venu ici ? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. » David lui répond, « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai simplement posé une question. » David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi, « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. » Saül lui répond, « Non, je ne peux pas aller me battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. » Alors David dit, « Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe, et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Pars donc et que le Seigneur soit avec toi. » Saül donne à David son équipement de guerre. Il lui met un casque de bronze sur la tête et il l'habite sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Il essaie d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, « Avec tout ça, je ne peux pas marcher, je n'ai pas l'habitude. » Et il enlève l'équipement de Saül. David prend son bâton. Il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger. Il prend sa fronde à la main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, « Tu viens contre moi avec un bâton ? Tu me prends donc pour un chien ?» Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il crie encore, « Viens ici ! Je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages !» David lui dit, toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête.
lui-même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer votre pouvoir. Goliath se met à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde. Et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front. Et Goliath tombe le visage contre le sol. Tout va bien. Ouais, c'est... Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin. Il l'a fait tomber et il l'a tué sans épée. David court et s'arrête avec Goliath. Non. Il tire l'épée de Goliath de son étui et lui coupe la tête. Alors, quand les Philistins voient que leur champion est mort, ils se mettent à fuir. Les soldats d'Israël et de Juda poussent leur cri de guerre. Et ils poursuivent les Philistins jusqu'à l'entrée de Gath et d'Écron. Les corps des Philistins couvrent la route de Charaïm jusqu'à Gath et Écron. Puis les Israélites arrêtent de poursuivre les Philistins et ils reviennent piller leur camp. David prend la tête de Goliath et j'ai perdu mon texte. Avec un œil, c'est difficile. Ouais, ça arrive, vous en faites pas. Et il la porte à Jérusalem. Il met les armes du Philistin dans sa tente. Saül a vu David partir pour combattre Goliath. À ce moment-là, il dit à Abner, le chef de son armée, « Mais Abner, ce garçon est le fils de qui ?» Abner répond, « J'en sais rien du tout, mon roi. J'en sais rien du tout. » Après sa victoire contre Goliath, il fait un tabac sur les réseaux sociaux de l'époque. Et en même temps, ce triomphe va le plomber pendant une bonne décennie de sa vie. Chaque fois que Saül envoie David à la guerre, David est victorieux. C'est pourquoi Saül le met à la tête de son armée. Il plaît à tous les soldats et aussi aux officiers du roi. Quand l'armée revient, après que David a tué le Philistin Goliath, les femmes sortent de toutes les villes d'Israël. Elles viennent à la rencontre du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins, des instruments de musique. Et elle crie de joie. Toute joyeuse, elle chante en se répondant « Saül a battu 1000 ennemis, David en a battu 10 000 !» Saül est très en colère, ce chant ne lui plaît pas. Il se dit quoi 10 000 ? 10 000 ennemis pour David ? Et moi j'en ai que 1000 ? Mais il ne lui manque plus que le pouvoir royal. Et Saül regarde David d'un œil mauvais à partir de ce jour-là, comme ça. Le jour suivant, un esprit mauvais envoyé par Dieu tombe sur Saül et le roi entre en transe dans sa maison. David joue de la cithare, comme tous les autres jours, et Saül tient sa lance à la main. Tout à coup, il jette sa lance en disant « Je vais clouer David au mur !» Mais David évite le coup deux fois de suite. Saül a peur de David. En effet, il comprend que le Seigneur l'a quitté, lui, pour être avec David. C'est pourquoi il l'éloigne de lui en le nommant chef de 1000 soldats. À partir de ce moment, David part au combat à la tête de l'armée. Il est toujours victorieux, parce que le Seigneur est avec lui. En voyant les grands succès de David, Saül a de plus en plus peur de lui. Mais les gens d'Israël et de Juda aiment David, parce que c'est lui qui marche à leur tête dans les combats. Pardonnez-moi. Ce serait trop long de vous relater en détail le cauchemar de David pendant cette période, avant qu'il accède au pouvoir suprême comme roi de toutes les tribus d'Israël. Saül le pourchassera, et David devra prendre le maquis pour sauver sa peau. Il deviendra même chef de bande, et il sera rejoint par bien des déçus du régime de Saül. Comme dans beaucoup de situations tout au long de l'histoire humaine, il va même devoir opérer à partir d'une base arrière située à l'étranger. David devient chef de bande. David part de là, et il se réfugie dans la grotte d'Adoulam. Ses frères et toute sa famille l'apprennent, et ils viennent le rejoindre. De plus, les gens en difficulté, ceux qui ont des dettes, tous les mécontents, environ 400 personnes, viennent avec lui. David devient leur chef. Puis David part d'Adoulam pour aller à Mispé en Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets à mon père et à ma mère de venir habiter chez toi, en attendant de savoir ce que Dieu veut faire de moi. » David les conduit donc chez le roi de Moab. Et il reste là pendant tout le temps que David est dans son refuge. Un jour, le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans ce refuge, rentre au pays de Juda. » David part donc, et il va dans la forêt de Héret. Un des épisodes clés de cette période, c'est la fameuse occasion où David a eu l'opportunité, offerte sur un plateau, de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Pourtant, David n'était pas un enfant de cœur. Le refus de tuer Saül montre sa vraie personnalité. C'est un homme droit, même s'il est aussi un tordu par certains côtés. Tandis que Saül est un tordu qui se donne des airs de droiture. David refuse de se venger en tuant Saül. Quand Saül revient de la bataille contre les Philistins, on lui dit « Maintenant, David est dans le désert d'En-Gedi. » Alors Saül prend 3000 hommes, les meilleurs soldats de l'armée d'Israël. Il va à la recherche de David et de ses hommes. Ils sont en face des rochers aux boucs sauvages. Saül passe près des parcs à moutons au bord de la route. Il voit une grotte et il entre là pour se soulager. David est caché au fond de la grotte avec ses hommes. Ceux-ci lui disent
« Voici le moment annoncé par le Seigneur. Il t'a dit « Un jour, je vais mettre ton ennemi en ton pouvoir, et toi, tu feras de lui ce que tu veux. » Alors David s'avance, et doucement, il coupe un morceau du vêtement de Saül. Il dit à ses hommes, « Vous me conseillez de tuer mon maître. Que le Seigneur m'empêche de le faire. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui a consacré Saül comme roi. »
Par ces paroles, David arrête ses hommes. Il ne leur permet pas d'attaquer Saül. Alors Saül quitte la grotte et reprend la route. David sort de la grotte après lui. Puis il se met à crier à Saül. « Mon maître le roi !» Saül regarde derrière lui. David s'incline profondément jusqu'à terre devant lui. Ensuite, il dit au roi, « Certains disent que je cherche à te faire du mal. Pourquoi est-ce que tu écoutes ces gens-là? Tu le vois maintenant de tes yeux, aujourd'hui dans la grotte. Le Seigneur t'a livré à moi. Mes hommes m'ont conseillé de te tuer. Mais j'ai eu pitié de toi et j'ai dit, je ne te ferai pas mourir, toi, mon maître. En effet, c'est le Seigneur qui t'a consacré comme roi. Regarde, mon père, regarde ce que j'ai dans la main, un morceau de ton vêtement. J'ai seulement coupé un morceau de ton vêtement, mais je ne t'ai pas tué. Donc tu le vois, je n'ai pas l'intention de te faire du mal, ni de me soulever contre toi. Tu le vois, je n'ai commis aucun péché contre toi. C'est toi qui me cherches partout pour m'enlever la vie. Le Seigneur jugera entre toi et moi, et il me vengera pour le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne te ferai rien. Tu connais le vieux proverbe ? La méchanceté vient des méchants, donc je ne te ferai aucun mal. Toi, le roi d'Israël, tu essayes de combattre contre qui ? Tu poursuis qui ? Moi, je ne suis qu'un chien mort, une simple puce. Eh bien, le Seigneur jugera entre toi et moi. Il va examiner l'affaire et me défendre. Il me donnera raison. Et il me délivrera de tes attaques. Quand David a fini de parler, Saül lui demande « Mon fils David, c'est bien toi qui me parles ?» Puis Saül commence à pleurer très fort. Saül continue.
C'est toi qui as raison et moi j'ai tort. Tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Aujourd'hui t'as montré ta bonté envers moi. Ouais, le Seigneur m'a livré à toi, mais toi tu m'as pas tué. D'habitude, quand quelqu'un rencontre son ennemi, est-ce qu'il le laisse continuer tranquillement sa route ? Jamais ! Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui.
Maintenant, je le sais. Un jour, tu seras roi. Et le pouvoir royal en Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc ceci au nom du Seigneur. Après ma mort, tu ne tueras pas les membres de ma famille. Ainsi, on se souviendra de moi et de ma famille. David fait ce serment à Saül. Ensuite, Saül retourne chez lui. David et ses hommes repartent dans la montagne où ils étaient cachés. Saül mourra à la guerre, ainsi que son fils Jonathan, qui était le grand ami de David, et qui lui a plusieurs fois sauvé la vie en le protégeant. David devient d'abord roi de Juda. Il habitera Hébron. David devient roi pour l'ensemble des territoires. Des gens de toutes les tribus d'Israël viennent trouver David à Hébron. Ils lui disent « Nous sommes de la même famille que toi. Dans le passé, quand Saül était notre roi, tu dirigeais les mouvements de l'armée d'Israël. À ce moment déjà, le Seigneur t'avait dit « C'est toi qui seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras son chef. » Tous les anciens d'Israël viennent trouver le roi à Hébron. Là, David passe un accord avec eux devant le Seigneur. Et il consacre David comme roi d'Israël. David a 30 ans quand il devient roi. Et il sera roi pendant 40 ans. À Hébron, il est le roi de la tribu de Juda pendant 7 ans et demi. À Jérusalem, il sera roi de tout Israël et de Juda pendant 33 ans. C'est beaucoup, hein ? Jusqu'à maintenant, on a peu parlé de la spiritualité de David, à part les quelques fois où il demande conseil à Dieu pour ses décisions stratégiques. Sa foi se révèle dans les nombreux psaumes dont il est l'auteur. Je vous rappelle que David était aussi musicien. Et je le vois plus comme un rockeur que comme slameur ou chanteur d'opéra. Les psaumes étaient chantés, tandis que nous les avons réduits à des textes à lire. tout en vous lisant un extrait du psaume 31, essayons d'y entendre la musique qui accompagne le texte. C'est peut-être un chant qu'il a composé à la suite de cette dizaine d'années d'errance dans le maquis. Et rappelez-vous, nous aussi, on a nos maquis. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Le Seigneur est mon abri, que je ne sois jamais couvert de honte. Tu es fidèle, délivre-moi. Tends l'oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi le solide rocher qui m'abrite, l'endroit sûr qui peut me sauver. Oui, mon rocher, c'est toi, et tu me protèges avec puissance. Guide-moi et conduis-moi pour montrer ta gloire. Fais-moi sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car toi, tu me protèges avec puissance. Je remets ma vie dans tes mains. Tu m'as libéré, Seigneur, toi le Dieu fidèle. Je déteste ceux qui adorent les faux dieux. Moi, j'ai confiance dans le Seigneur. Je danse de joie à cause de ton amour, car tu as vu mon malheur. Tu as compris ma grande souffrance. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu m'as remis debout. Tu m'as rendu la liberté. Je vais avoir besoin de l'assistance de quelqu'un pour la prochaine partie. Je vais prendre vous, monsieur. Oui. Voilà David, roi d'Israël. Il donnera dès le début une orientation spirituelle très claire pour son mandat de roi. Le Seigneur promet le pouvoir royal à David et à ses fils. Le roi David s'installe dans son palais. Le Seigneur me délivre de tous les ennemis qui entourent le pays et il vit en paix. Un jour, merci Cédric, le roi dit au prophète Nathan, « Tu vois, moi j'habite une maison en bois de cèdre. » Mais le coffre sacré a seulement une tente de toile comme maison. Nathan dit au roi, tu as sûrement une idée à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses? Le Seigneur est avec toi. Mais la nuit suivante, le Seigneur adresse ses paroles à Nathan. Tu iras trouver mon serviteur David, et tu lui diras de ma part, je l'affirme, moi le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison pour que je l'habite. En effet, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais habité dans une maison. Mais j'étais comme un voyageur. J'allais d'un lieu à un autre et j'habitais dans une tente. De plus, pendant toutes ces années où j'ai accompagné les Israélites, j'ai nommé plusieurs chefs. Ce sont eux qui ont gouverné Israël, mon peuple. Je n'ai jamais dit à personne « Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas construit une maison en bois de cèdre ?» C'est pourquoi tu diras encore de ma part à mon serviteur David, « Moi, le Seigneur de l'univers, je t'ai pris au pâturage, derrière tes moutons. J'ai voulu que tu deviennes le chef d'Israël, mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai fait mourir devant toi tous les ennemis. Je te rendrai aussi célèbre que les plus grands rois de la terre. Je vais donner un lieu à Israël, mon peuple. Je l'installerai là et il y restera sans avoir peur. Des gens mauvais ne viendront plus l'écraser comme autrefois, quand j'ai nommé des juges pour gouverner Israël, mon peuple. Je te délivrerai de tous tes ennemis et tu vivras dans la paix. Enfin, je t'annonce ceci. C'est moi, le Seigneur, qui te construirai une maison. En effet, quand ta vie sera finie et que tu auras rejoint tes ancêtres, je désignerai un de tes fils. Il sera roi après toi et j'établirai solidement son pouvoir. C'est lui qui me construira une maison. Et grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il fait le mal, je le corrigerai à la manière des hommes, comme un père frappe son fils. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai fait avec Saül. Lui, je l'ai rejeté pour te mettre à sa place. Quelqu'un de ta famille sera toujours roi après toi. En effet, le pouvoir royal de ta famille sera établi pour toujours. Nathan raconte à David tout ce que le Seigneur lui a montré dans une vision. Alors le roi David va se présenter devant le Seigneur. Il dit « Seigneur mon Dieu, je le sais, moi et ma famille, nous ne méritons pas tout ce que tu nous as déjà donné. Mais pour toi, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas encore assez. Tu fais aussi des promesses pour l'avenir de ma famille. Est-ce normal d'agir ainsi avec un être humain ? Seigneur mon Dieu, tu me connais, moi, ton serviteur. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ? À cause de ta promesse et de ta bonté, tu as réalisé toutes ces choses extraordinaires et tu me les as fait connaître. Tu es vraiment grand, Seigneur mon Dieu. Personne ne te ressemble. Et aucun Dieu n'existe en dehors de toi. Nous l'avons toujours entendu dire. Est-ce qu'il y a un seul peuple sur la terre qui ressemble à Israël ? Tu es allé le libérer du pouvoir des Égyptiens et de leur Dieu pour en faire ton peuple. Tu l'as rendu célèbre en réalisant pour lui des choses extraordinaires ou terribles dans ton pays. Seigneur, tu as fait d'Israël ton peuple pour toujours et tu es devenu son Dieu. Maintenant, Seigneur Dieu, fais ce que tu as dit pour moi et pour ma famille. Tiens pour toujours ta promesse. Alors ton nom sera célèbre pour toujours et les gens diront « Le Seigneur de l'univers, c'est le Dieu d'Israël. » Établis pour toujours le pouvoir royal de ma famille. Oui, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, tu m'as fait connaître tes intentions en me disant « Je te construirai une maison. » C'est pourquoi j'ose te faire cette prière. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ce que tu dis, tu le fais. Et tu me promets maintenant ce bonheur. Je t'en prie, bénis ma famille pour les enfants de mes enfants et pour que ceux-ci soient toujours rois en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui as fait cette promesse. Et par ta bénédiction, ma famille sera bénie pour toujours. Il faudrait quelques heures de plus pour vous lire toute l'histoire de David, ainsi que les nombreux psaumes qu'il a composés. La période royale de David n'est pas toujours très exemplaire. Conflits entre ses épouses, adultère qui le conduira même à faire liquider le mari de son amante, querelle entre fils et cerise sur le gâteau, un de ses fils cherchera à le tuer. Rien que ça. Mais paradoxalement, ce roi est resté dans l'histoire et aux yeux de Dieu comme un fervent champion pour sa cause, un fidèle parmi les fidèles. Pour terminer, juste trois versets concernant David, qui montre sa proximité avec le Christ. Actes 13, 34. Dieu a relevé Jésus de la mort. Son corps
ne retournera plus pourrir dans la tombe. Dieu l'avait annoncé en disant « Je vous donnerai ce que j'ai promis à David, ce qui est saint et vrai. » 2 Timothée 2:8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il s'est réveillé de la mort. Il est né dans la famille de David, son ancêtre, selon la bonne nouvelle que j'annonce. Apocalypse 22:16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin.